Radio IFM, la première radio des médecins généralistes. Sophie Lemonnier.
Un jour, forcément, quelqu'un écrira l'histoire du baclofène. Avec en toile de fond cette question, ou plutôt cette énigme, pourquoi des médecins ont pendant si longtemps regardé se dégrader et mourir devant eux des malades atteints d'une maladie, l'alcoolisme, alors qu'ils avaient à portée de main un médicament qui guérissait. Des médecins qui ont même refusé de le prescrire, une énigme et un scandale, une honte pour la médecine. Tel est l'éditorial que notre invité, le docteur Renaud de Beaurepaire, a écrit dans la revue Le Courrier des Addictions, je crois que c'était en octobre dernier. Vous l'avez compris, c'est du baclofène dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. Le docteur Renaud de Beaurepaire, auteur donc de cet éditorial, qui est psychiatre et chef de service à l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif. Et Marie-Laure Albi, médecin généraliste à Paris, qui appartient à MG Form, notre partenaire. Alors Renaud de Beaurepaire, vous ne pensez pas être allé un petit peu loin avec cet éditorial ?
Je pense pas du tout. Hein. Bon, c'était aussi un peu une provocation.
Quand même.
Manifestement, les gens ont réagi et c'était l'objectif. Alors, le baclofène, je sais pas par où commencer pour le baclofène, mais c'est un petit peu compliqué.
Vous allez répondre à ma question, est-ce que vous exprimez un vrai ras-le-bol là ? En fait,
pas du tout, non.
Un peu de provocation,
mais pas du tout de ras-le-bol. Si vous voulez,
juste l'ambiance.
Cette histoire du baclofène est un petit peu inédite, dans le sens où on a une maladie pour laquelle, en tout cas, moi. J'ai jamais réussi à la soigner, c'est-à-dire que je suis psychiatre de secteur, donc je soigne surtout des schizophrènes et des bipolaires, etc. Pas prioritairement des alcooliques, mais j'ai quand même eu au cours de ma carrière à voir beaucoup, beaucoup d'alcooliques, et honnêtement, j'ai jamais réussi à les soigner. Et j'insiste sur le fait que pour moi, l'alcoolisme, c'est une maladie de la dépendance, que les personnes alcooliques deviennent esclaves de leur alcool et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter à moins d'une extraordinaire volonté qui n'est pas à la portée de l'immense majorité des personnes qui boivent. En fait, quand on est dépendant de l'alcool, c'est une vie terrible, terrible, terrible pour soi, pour l'entourage, pour tout. C'est quelque chose d'épouvantable.
45 000 décès en France par an.
45 000 décès en France.
Énorme, 5 millions.
120 par jour. 120 morts par jour.
Hein, ouais. En France.
Donc, c'est une maladie dévastatrice vis-à-vis de laquelle, contrairement à ce que j'entends parfois dire dans certains messages, dans certaines publicités, il n'y a pas de traitement. Il y a quelques médicaments dont toutes les études montrent qu'à 6 mois ou à 1 an, l'effet n'est pas différent de celui du placebo.
Alors qu'avec le baclofène, vous avez quoi le baclofène?
Le baclofène, d'abord, peut-être, c'est un truc qui tombe tout d'un coup comme un cheveu dans la soupe. Personne n'attendait et ça crée une situation inédite. Il y a peut-être pas totalement inédite parce qu'il y a eu d'autres exemples, peut-être avec les trithérapies, avec la méthadone, etc., qui étaient du même ordre. Enfin, c'est une situation assez inédite où on a donc une maladie grave, mortelle, pour laquelle n'existe pratiquement aucun traitement, vis-à-vis de laquelle la société s'est organisée pour créer des centres thérapeutiques, faire une formation d'alcoologue, etc., avoir toutes sortes de mesures qui sont des cache-misères, parce que les alcoologues, je suis désolé, je suis pas sûr qu'ils guérissent mieux que moi les alcooliques, même si c'est peut-être faux, mais ils sont un petit peu mieux que moi, mais pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils les guérissent pas. Il y a des centres d'alcoolologie qui sont là, des centres de cure, qui sont là pour recevoir épisodiquement les pauvres malades qui rechutent généralement dans la semaine qui suit leur sortie, etc. Mais il y a toute une organisation de fausses prises en charge, d'alibi de prise en charge, parce que ça je le pense vraiment, de l'alcoolisme, qui est devenu extrêmement solide, extrêmement rigide, extrêmement institutionnalisé, et à laquelle on a l'impression qu'on peut pas toucher. Or, arrive une espèce de médicament que personne n'attendait, qui vaut rien du tout, qui se prescrit facilement, et qui guérit les gens, et ça se heurte à un truc kafkaïen. C'est-à-dire qu'on ne... C'est pas prévu. Ah ben non, vous n'êtes pas prévu dans l'organisation institutionnelle de la médecine française.
Bon, ben, mais voilà.
Donc, faut gueuler un petit peu.
Non, mais tel que vous le présentez, on a l'impression qu'il y a un marasme épouvantable et que vous arrivez, tel Zorro, avec quelque chose qui sauvera la Terre entière. Ça paraît un petit peu mirobolant et un vrai conte de fées, à vous entendre.
Écoutez, c'est pour la première fois que j'essaie de m'identifier à Zorro. Non, ça colle pas. Ni moi, ni Amezen, qui est la personne qui a découvert ses capacités du baclofène à guérir les alcooliques, nous nous prenons pour Zorro. En fait, si on le devient malgré nous, tant mieux ou tant pis, j'en sais rien, mais c'est pas du tout ça. Ce qu'il y a, c'est que est apparue cette molécule, qu'on est un certain nombre et de plus en plus nombreux, parce qu'il suffit de l'essayer. Il suffit d'essayer le baclofène pour se rendre compte que c'est un truc invraisemblable. Et alors, tous les gens qui l'essayent, il y en a de plus en plus, témoignent de cette espèce de situation bizarre où l'on est, de devoir soigner des personnes qu'on n'est pas formé véritablement, parce que moi je suis pas du tout alcoolique, à soigner à l'origine, et beaucoup de mes collègues psychiatres me téléphonent, m'écrivent, etc., pour me dire « Mais c'est incroyable ce truc, mais j'aurais jamais pensé, mais... » Et puis ça marche. Je laisse la parole à Madame.
Oui, je crois que là, elle va peut-être pondérer un petit peu votre enthousiasme.
Non, je suis sensible à votre enthousiasme. Au contraire, je suis ravie qu'on nous donne un moyen efficace. Comme vous, c'est pas des maladies faciles à prendre en charge. Par contre, puisque vous êtes quand même quelqu'un qui travaillait dans la recherche, etc., je pense qu'une des manières de s'opposer à la rigidité des structures, alors là, je vous suis parfaitement et j'en ai même plus à dire là-dessus, ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on peut justement démontrer, comme dans d'autres domaines, de manière simple et rigoureuse, la supériorité d'une prise en charge avec ce type de prescription, parce que c'est ça la méthode. Et elle est, et comme vous le dites, moi j'en prescris, c'est pas très compliqué, c'est quelque chose qui peut se faire dans le cadre d'un cabinet. Je suis pas sûre que le support médicamenteux soit le seul dans ce type de prise en charge, mais s'il aide, il va nous aider. Mais on avait déjà quelques autres médicaments fondés sur des principes un peu plus sans tabus avant et qui marchaient dans un contexte particulier. Donc je pense que si vous pouviez nous développer de manière plus rigoureuse, au-delà de l'enthousiasme du prescripteur, ce qui permet d'argumenter de manière
en un mot, quelles
médicale.
Sont les études,
c'est ça voilà. Que vous voulez dire. Non, mais pas les études, mais quels sont les arguments rigoureux qui font que effectivement, c'est dommage de ne pas faire bénéficier un maximum de patients de ce type de prise en charge, puisque ça marche, dites-vous.
Alors, donc les arguments rigoureux, vous avez parlé de simplicité. Alors, Il y a deux façons. Il y a une façon simple et une façon pas simple. Pour avoir un argument rigoureux qui permette de prescrire un médicament quel qu'il soit, il y a des études à faire. Ce sont des études donc qui sont, alors comme on dit, randomisées, en double aveugle, etc., contre placebo, etc. Donc, donc il faut faire ces études. Le mystère, si vous voulez, c'est que ça fait un peu plus de deux ans que le livre d'Olivier Amezen a été publié et qu'il n'y ait encore aucune étude qui ait été entreprise pour essayer de démontrer, pour démontrer, je veux qu'on y essaye d'ailleurs, pour démontrer que le baclofène est une molécule efficace. Ça, c'est déjà une énigme. Hein, comment ça se fait? Alors, il y a une étude qui va commencer en Hollande, je crois, à Amsterdam, mais en France, il y en a une qui est en gestation. Il y a eu une fausse étude qui a été proposée, c'est-à-dire qui était une étude finalement faite pour ne pas faire d'étude. Alors, je ne vais pas en venir là-dessus, hein, mais c'était une étude avec des doses totalement insuffisantes, avec l'adjonction d'un autre médicament anti-alcoolique de façon à ce qu'on puisse rien prouver, etc. C'était une étude faite pour être un échec, mais grâce à Dieu, enfin si on peut dire, cette étude n'a jamais vu le jour. Et actuellement est en gestation en France, avec des personnes que je connais, une étude rigoureuse. Mais ça prend beaucoup de temps. En fait, cette étude, on aurait dû la commencer il y a deux ans, elle serait terminée maintenant. Simplement, l'étude qui est en train d'être préparée pour être mise en route,
en vue de publication.
En vue de publication, et c'est-à-dire de reconnaissance du baclofène comme médicament efficace, ne commencera vraisemblablement pas avant l'automne prochain. Il faudra deux ans pour qu'elle arrive à des résultats, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'avant trois ans, au mieux, si on s'en tient à des études en double aveugle, le baclofène est une autorisation d'utilisation dans l'alcoolisme. Donc,
Mais là, on parle de l'Europe. Peut-être
alors. On parle de la France.
On parle de la France. Est-ce que à l'extérieur, à l'étranger, il y a des études qui ont été faites sur le baclofène?
Alors, je disais qu'il y a une étude qui va commencer. Pour ce que j'en sais, je ne suis pas au courant de tout, hein, mais pour ce que j'en sais, il y a une étude qui va commencer, ou du moins il y a une étude qui a trouvé un financement en Hollande. Je ne pense pas que ce soit très différent de notre étude qui est en train de se mettre en place en France. À mon avis, ces deux études vont être à peu près contemporaines. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres études en développement dans le monde, mais j'ai une connaissance très limitée du sujet. Finalement, les gens qui font des études ne me téléphonent pas en me disant « je vais commencer une étude ». Bon, je ne suis pas au courant. Il y en a probablement qui vont avoir lieu aux États-Unis ou en Australie ou je ne sais pas où, ça ne m'étonnerait pas du tout.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière sur qu'est-ce que c'est ce médicament? Comment ça marche?
Alors, donc ce médicament... alors. Littéralement, c'est un myorelaxant, un médicament utilisé chez des malades qui présentent des maladies neurologiques, maladies au cours desquelles il y a des spasmes musculaires, en particulier une maladie comme la sclérose en plaques donne des spasmes musculaires qui sont très gênants, qui font souffrir les personnes, et le myorelaxant, en relaxant les muscles, mais en agissant probablement aussi ailleurs, permettent de faire en sorte que ces spasmes musculaires soient beaucoup moins bruyants, apparaissent beaucoup moins, c'est-à-dire que c'est le traitement habituel des spasmes dans les maladies neurologiques. Alors, c'est une molécule qui a reçu une AMM en France dans cette indication en 1972, c'est-à-dire il y a près de 40 ans, donc c'est une molécule extrêmement bien connue, qui a été donnée à des millions de personnes dans le monde, dont on connaît parfaitement les effets secondaires. Je dis en passant qu'il y a eu, comme avec tout médicament, parce que les gens qui sont déprimés prennent tout ce qu'ils ont à portée de main, des tentatives de suicide au baclofène, avec des doses jusqu'à 100 fois supérieures à la dose préconisée, et qui ne sont jamais morts. C'est une façon de montrer que le baclofène n'est pas une molécule toxique, comme voudraient le faire croire certaines personnes. Donc c'est une molécule bien connue, bien tolérée, qui a aussi cet énorme défaut d'être pas chère du tout, d'avoir été génériquée, c'est-à-dire de rapporter rien à personne, et en particulier de rien rapporter à l'industriel qui la fabrique, parce que vraiment c'est extrêmement minimal, même s'il n'est pas mécontent que la molécule se vende. Enfin, c'est pas du tout une molécule qui rapporte beaucoup. Donc cette molécule est parfaitement connue. Et puis, un jour, alors il y a eu des gens, des chercheurs qui ont montré que chez l'animal, cette molécule avait des potentialités pour traiter les addictions. Mais on était chez le rat ou la souris, donc c'était pas très intéressant. Et puis, un jour, il y a eu un collègue qui s'appelle Olivier Amezen, qui est un bonhomme absolument remarquable, qui est un Français a été, après son internat, travaillé aux États-Unis, qui a fait une carrière époustouflante aux États-Unis. Mais... pour des raisons, il faut lire son livre pour le comprendre, s'est mis à boire. Et puis est devenu dépendant de l'alcool, et est devenu alcoolique, etc. Et a été pris dans cette espèce de spirale de la dépendance et de tous les inconvénients de la dépendance, c'est-à-dire, bon, une histoire extrêmement malheureuse. Mais en personne intelligente et cultivée, il a regardé dans la littérature scientifique s'il n'y avait pas des médicaments, parce qu'il a fait, je crois qu'il a dit qu'il a fait plusieurs milliers de séances de thérapie de diverses formes, d'alcooliques anonymes, etc., sans jamais arriver à guérir. Et je crois qu'il a compris que dans certaines formes d'alcoolisme, du moins celle qui était la sienne, on ne pouvait pas guérir par la volonté. Malgré tout ce que tout le monde dit, le message qui circule, c'est il faut de la volonté, c'est au-delà de la volonté. C'est une maladie qui a complètement réorganisé le fonctionnement du cerveau. La volonté ne peut rien faire. Bon, il a regardé la littérature scientifique et il a donc, pour faire les choses courtes, trouvé qu'une molécule qui s'appelait le baclofène était efficace chez le rat pour soigner la dépendance Donc, il a pris cette molécule, il l'a prise à dose de plus en plus élevée, se référant sur des travaux de neurologues qui montraient que l'effet antispasmodique du baclofène était obtenu à des doses faibles, mais souvent le baclofène devait être prescrit à doses fortes, donc il a pris de fortes doses de baclofène, en se référant aussi aux doses données aux rats, qui étaient de l'ordre de 3 mg kilo, alors que chez l'homme, la dose est beaucoup plus faible. Donc il a monté beaucoup les doses, jusqu'au jour où, c'est ce jour où il a vu une bouteille d'alcool autour de lui, et il n'a pas eu envie, il ne la regardait pas, il ne voulait pas regarder cette bouteille d'alcool en se disant, je vais encore recommencer à boire, il ne faut pas que je regarde, et il a regardé cette bouteille d'alcool, et il s'est aperçu qu'il avait une indifférence vis-à-vis de l'alcool. Bon, le cas à Mézène. Alors, ce cas n'était pas nécessairement généralisable. Et alors, il se faisait que je connaissais un petit peu à Mézène et qu'il m'avait demandé, qu'il m'avait suggéré d'en prescrire à mes patients alcooliques. Donc, j'ai assez peu d'alcooliques, mais j'en avais prescrit à quelques patients chez lesquels ça avait marché. Donc, le jour où Amezen a publié son livre en octobre 2008 en France, j'étais cité dans ce livre, et étant donné que lui n'était pas réputé comme quelqu'un susceptible de prescrire le baclofène, les personnes dépendantes à l'alcool en France se sont précipitées pour me demander à moi de leur prescrire du baclofène, quelque chose auquel j'étais pas du tout préparé, parce que j'avais mon service de psychiatrie qui était déjà extrêmement lourd, et c'était difficile pour moi de le faire. Bon, je passe sur les détails. Je me suis mis à prescrire du baclofène aux personnes qui me le demandaient, et j'ai une file active actuellement de pas loin de 300 personnes que je soigne sous baclofène. Enfin, il y en a beaucoup que je soigne plus parce qu'ils ont été, le relais a été pris par d'autres médecins, mais j'ai vu dans ce cadre au moins 300 patients, dont l'immense majorité est guéri. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne boivent plus et qui n'ont plus envie de boire. Alors c'est très très variable. Alors c'est là qu'il faut entrer un petit peu dans les détails. Le baclofène n'est pas efficace à une dose donnée. C'est pas comme un antidépresseur ou un antibiotique. On dit il faut en prendre 1 gramme par jour ou un comprimé ou 3 comprimés. Le baclofène est, et c'est imprévisible quand on voit un patient, est efficace à une dose très variable d'un patient à l'autre. Donc le protocole consiste à augmenter progressivement des doses, ce sont des comprimés à 10 mg, je donne la première semaine 3 comprimés, 30 mg, la deuxième semaine 60, 80, etc. Et on augmente de semaine en semaine des doses à raison de 30 mg par semaine en plus, jusqu'au jour où les patients me disent « j'ai atteint la dose qui fait que je suis devenu indifférent à l'alcool ». Comme résumé, ça vous va ?
Tout à fait, la progression. Et au niveau du temps aussi, on peut donner une notion un petit peu. Est-ce que
c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il y a des gens guéris la première semaine. C'est-à-dire, j'ai eu des personnes, relativement peu, mais j'ai eu des personnes guéries à 3 comprimés par jour, c'est-à-dire qui, une fois qu'ils ont pris 3 comprimés par jour, alors que c'était parfois des gens extrêmement alcoolisés et dépendants à l'alcool, n'ont plus bu du tout. J'ai eu d'autres personnes qui sont montées à des doses supérieures à 30 ou 300 mg, c'est-à-dire à 30 comprimés par jour. J'en ai même eu à 35, j'en ai même eu à 40 comprimés par jour, et qui n'ont toujours pas arrêté de boire. Donc, alors, il faut...
C'est l'indifférence dont vous parlez, ouais. Justement. Est-ce qu'elle est, vraiment centrée sur l'alcool ou sur d'autres choses? Est-ce que tout est un peu écrêté?
Non.
Est-ce que l'humeur est un peu écrêtée
ou
pas?
Ah oui, pardon. Alors, il y a effectivement plusieurs choses. Il y a l'alcool et il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui est l'effet anxiolytique du baclofène. Et je crois que peut-être qu'un jour, on arrivera à montrer que l'efficacité dans l'alcoolisme est assez liée à l'efficacité sur l'anxiété. C'est-à-dire que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, l'anxiété fait boire. Hein, que beaucoup de personnes boivent, du moins au départ, au début, c'était le cas d'Amezen, parce qu'ils sont anxieux, parce qu'ils ont souvent des anxiétés sociales, des phobies sociales, et que l'alcool, en société, permet d'être un petit peu désinhibé, permet de... a un effet anxiolytique, évident, hein, et que souvent l'alcoolisme commence comme ça. Ensuite, les personnes deviennent dépendantes. Mais ce qui est intéressant avec le baclofène, encore que ce ne soit pas toujours le cas, mais dans beaucoup de cas, on voit que les patients ont cet effet d'indifférence avec l'alcool après une phase où le baclofène a eu un effet franchement anxiolytique chez eux. Et il y a eu des publications déjà qui ont proposé que le baclofène, avant même cette découverte dans l'alcoolisme, pouvait être un anxiolytique. Il y a eu des publications qui avaient dit que le baclofène pouvait être utilisé dans une maladie qui s'appelle l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire dans des états anxieux. Le baclofène a manifestement un effet anxiolytique. Cela dit, mon expérience est que ce n'est pas toujours le cas. Et qu'il y a des personnes qui sont extrêmement anxieuses, qui le restent sous baclofène, qui s'arrêtent de boire malgré tout. Donc, le baclofène n'a pas seulement un effet anxiolytique. Il a un effet assez spécifique, c'est ma dernière phrase, assez spécifique sur la prise d'alcool.
Mm-hmm. Quels effets secondaires? Vous nous avez dit tout à l'heure en préambule qu'effectivement, chez l'animal, il n'y avait pas eu de problème, et dans la sclérose en plaques non plus, quand il était donné comme antispasmodique. Là, dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez pu remarquer comme effet secondaire?
Alors, bon, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de problème. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu de problème grave. C'est-à-dire de prise létale de baclofène. Cela dit, le baclofène, malheureusement, est source de beaucoup d'effets indésirables. Le premier effet indésirable, ou le plus répandu, le plus fréquent, c'est une fatigue. Une fatigue très importante chez certains patients, pas chez tout le monde. À peu près les deux tiers des patients éprouvent cette sensation de fatigue, ce qui veut dire qu'un tiers ne l'éprouve que très peu ou pas du tout. Mais chez certaines personnes, la fatigue est telle que ça ressemble à des attaques de sommeil. C'est-à-dire que les personnes prennent leur comprimé et quelques minutes après ont des vertiges, un besoin de s'asseoir et une envie de dormir irrépressible. C'est pour ça que la seule précaution d'emploi que je prends avec le baclofène, c'est que je demande aux personnes à qui, chez lesquelles j'institue un traitement, de ne pas conduire de voiture pendant les premières semaines de traitement. La seule peur que j'ai, si je peux en avoir avec le baclofène, c'est que les patients aient un accident en début de traitement avec des espèces d'attaques de sommeil quand ils conduisent leur voiture. C'est la seule chose vraiment grave, à mon avis, qui puisse arriver avec le baclofène. En dehors de ça, alors, si vous voulez m'interrompre, vous pouvez, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'effets secondaires du baclofène. Fatigue, vertige, somnolence, les principaux effets indésirables. Mais aussi des troubles digestifs, mais aussi des insomnies, mais aussi des douleurs, des maux de tête, des douleurs articulaires, aussi des troubles sensoriels divers, des acouphènes, des troubles de la sensibilité tactile, des troubles de la vue, des troubles du goût. Il y a des gens qui trouvent que le baclofène modifie le goût de certains médicaments, des modifications, enfin, toutes sortes de modifications qui sont des effets secondaires quand même assez bénin hein, dans l'ensemble, et puis qui disparaît généralement assez rapidement. C'est assez exceptionnel que j'ai eu des patients qui aient arrêté le traitement à cause des effets secondaires. Ce qui se passe quand un effet... je finis là. Ce qui se passe quand un effet secondaire est très difficile à supporter pour un patient, on fait un palier. C'est-à-dire que généralement, les effets secondaires surviennent quand on augmente progressivement les doses et à une certaine dose, ils ressentent des effets très désagréables qui peuvent les inciter à arrêter le traitement. Là, on passe à la dose en dessous. Par exemple, ils sont, je sais pas, à 10 comprimés par jour et apparaissent des effets secondaires très désagréables. On retombe à 8 ou à 7 pendant une certaine période de temps jusqu'à ce que les effets secondaires disparaissent et on réaugmente ensuite progressivement. D'où, pour répondre à votre question tout à l'heure, le traitement avec le baclofène peut prendre beaucoup de temps parce qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à augmenter les doses et que j'ai vu des patients qui n'ont été guéris qu'au bout de 6 mois ou 8 mois parce qu'ils ont augmenté très très progressivement les doses. Mais ceux qui ont vraiment envie d'arrêter de boire et qui acceptent les effets secondaires et de suivre le protocole, je dirais pratiquement toujours arrivent à arrêter de boire et éprouvent l'effet favorable du baclofène.
Et est-ce qu'il faut poursuivre le traitement 6 mois, 8 mois après ?
Alors, c'est une autre question. Donc, une fois qu'on a obtenu cette indifférence vis-à-vis de l'alcool et que les personnes ont arrêté de boire, on reste au dosage de baclofène qui a produit cette indifférence à l'alcool pendant quelques mois. Et puis ensuite, quand on a l'impression, et les patients le disent, que l'idée de l'alcool est sortie de leur tête, on commence progressivement à diminuer, mais très progressivement, la prise d'alcool. La prise de médicaments de baclofène. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'en diminuant les doses, à partir de certaines doses, tout d'un coup, les personnes éprouvent de nouveau une envie de boire. Et là, on réaugmente un petit peu. Si vous voulez, on joue avec les doses en fonction de ce qu'on appelle le craving. Quand le craving a disparu, on diminue les doses. Quand le craving réapparaît, on réaugmente les doses. J'ai, malgré tout, un certain nombre de patients qui n'ont plus de craving et qui ont arrêté le baclofène. Donc, c'est pas... Enfin, je veux dire qu'on ne prend pas le baclofène à vie, sauf peut-être chez certaines personnes qui auront besoin à vie de prendre du baclofène. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul.
Et l'association baclofène et prise d'alcool, qu'est-ce que ça donne ?
Ah, écoutez, rien de particulier. Moi, j'ai jamais demandé à un patient d'arrêter l'alcool. Je leur dis que c'est mieux s'ils ont envie de l'arrêter. Mais quand j'institue un traitement par le baclofène, je touche à rien de l'existence des patients. Je leur dis... Il devrait, au bout à une certaine dose, vous devriez à une certaine dose éprouver une indifférence vis-à-vis de l'alcool. Vous pouvez continuer à boire. Moi, j'interdis pas du tout aux gens de boire. Mais ce que je souhaite, c'est qu'ils aient envie d'arrêter de boire, qu'ils aient cette envie. Simplement, parce que c'est vrai que les gens qui n'ont les échecs du baclofène, dans la majorité des cas, c'est des personnes qui ont une diminution de leur craving évidente, mais qui, pour toutes sortes de raisons psychologiques complexes, n'arrivent pas à arrêter l'alcool. Pour eux, ça a une fonction extrêmement importante dans leur vie, sociale, identitaire, à toutes sortes de points de vue. Ils n'arrivent pas à arrêter l'alcool. C'est beaucoup plus fréquent que ce que je pensais d'ailleurs au départ. Beaucoup de gens ne peuvent pas arrêter l'alcool parce qu'on dirait que c'est leur identité et qu'ils perdent leur identité en arrêtant l'alcool. Cela dit, la majorité des patients, c'est pas le cas. La majorité des patients a envie d'arrêter de boire et la majorité des patients arrive à arrêter de boire.
J'aurais encore un tas de questions à vous poser, mais l'heure tourne. Marie-Laure Albi, est-ce que vous voulez quelques précisions? Quelle sera votre dernière question? Et la mienne, ce sera sur l'AMM, quand même. Puisque
d'accord.
Ce médicament n'est pas inscrit, n'a pas son autorisation de mise sur le marché. Marie-Laure Albi.
Moi, je suis volontaire pour expérimenter, hein. Parce que je fais ça dans mon petit coin, mais j'aime mieux faire ça dans des essais un peu organisés avec éventuellement une surveillance. Je pense que comme c'est assez simple à, comme vous dites, à prescrire, je pense que ça mérite au moins un travail, peut-être pas à l'étude en double aveugle, ça c'est un petit peu au-delà des moyens pour l'instant des cabinets de médecine générale, mais un travail un peu plus organisé pour que le pauvre docteur de Beaurepaire soit pas le seul à prescrire pour France entière, ça mérite peut-être un travail avec l'Île-de-France pour essayer justement de recueillir des informations, mais sans faire un truc trop compliqué. Mais je pense que on est toujours très content quand on peut offrir quelque chose qui aide des gens qui sont dans ces situations-là.
Tout à fait. Ben, il n'y a plus qu'à prendre date, je crois. Dernière question donc, l'AMM, comment vous faites?
Alors, juste pour répondre à Madame Albi, je ne suis plus seul. Il y a de plus en plus de médecins qui prescrivent du baclofène en France. Tous ceux qui l'ont essayé, je veux dire qui l'ont essayé sérieusement, pas qui ont donné 3 comprimés et puis dit « ça marche pas », ceux qui l'ont essayé sérieusement, tous ont eu des succès avec le baclofène, tous continuent à en donner, et on est en train d'établir un réseau de prescripteurs en France, de façon à ce que les patients qui habitent à 500 km ou 1000 km de Paris n'aient pas à faire des trajets, parce que je vois les patients tous les mois, dans la mesure du possible, n'aient pas à faire des trajets tous les mois, souvent ce sont des personnes qui sont extrêmement démunies sur le plan financier, n'aient pas à faire tous les mois le voyage jusqu'à Vitry-sur-Seine pour venir me voir, mais on cherche des correspondants locaux, et on en trouve maintenant un peu partout en France, qui soient des prescripteurs de baclofène. C'est juste pour répondre à votre question.
Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas se contenter d'avoir des réseaux de prescripteurs. Il faut les accompagner, parce que comme pour la substitution en d'autres temps, il ne faut pas exposer non plus les prescripteurs à des ennuis s'il y a un problème. Parce que là, c'est ce que je vous disais, je pense que le réseau pour trouver des gens pour aider, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un accompagnement qui permette d'avoir un recueil d'informations et de pouvoir défendre les collègues tout seuls dans leur coin qui seraient confrontés à un effet adverse ou à quelque chose ou à une protestation. Il faut faire attention, à mon avis, dans ces prescriptions, quel que soit le problème de l'AMM. Je pense que c'est plutôt le côté, la prescription est un art qui mérite d'être fait collectivement quand on déborde des propriétés habituelles d'un médicament.
Alors, juste avant
un dernier mot. Vraiment, c'est votre dernier mot, monsieur de Beaurepaire.
Pour répondre à ce qu'a dit Madame Albi, les prescripteurs peuvent regarder sur Internet notre site de l'association Aube.
Vous nous le donnerez tout à l'heure.
Voilà. Juste pour répondre à la question, je voulais pas en parler, mais simplement, puisque Madame Albi a dit ce qu'elle a dit, les prescripteurs ne sont pas seuls, ils peuvent avoir recours sur ce site internet où ils sont en contact avec des médecins prescripteurs qui ont l'habitude de prescrire et qui leur donneront des conseils s'ils ont des hésitations.
Voilà.
Pour l'AMM.
Oui, très rapidement. C'est vraiment...
Le baclofène, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché du baclofène pour le traitement de l'alcoolisme. Un médecin qui prescrit du baclofène hors AMM a le droit de le faire, simplement il prend un petit risque qui à mon avis est minimal étant donné le peu d'effets indésirables graves que l'on a avec le baclofène.
Bah écoutez, c'était un plaisir de vous entendre. Marie-Laure Albi, je suppose, est séduite par cette possibilité face à une maladie qui pose vraiment beaucoup de problèmes. J'espère vous retrouver quand nous aurons les résultats de cette étude qui va être lancée. Ce sera avec grand plaisir. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci à Sanofi Aventis également qui poursuit son partenariat avec Radio IFM.
Non, vous voudriez changer la musique.
On explose.
Pardon, qu'est-ce qui explose?
Je dis, on explose.